Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Idrissa Seydoudia et Morgane Guériac en votre compagnie. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 avril 2016. Au sommaire ce soir,
Teodoro Obiang-Nguema, élu président de la Guinée équatoriale avec plus de 93% des voix.
L'état d'urgence prolongé de 3 mois dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger.
Et disparition de militaires et policiers au Tchad, Amnesty International demande une enquête.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé les dernières sanctions qui pesaient sur la Côte d'Ivoire.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
En Guinée équatoriale, sans surprise, Teodoro Obiang-Nguema a été réélu président au pouvoir depuis 1979. Il a raflé 93,7% des votes selon les résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale.
L'état d'urgence prorogé de 3 mois dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, le gouvernement justifie cette décision par la menace élevée due aux attaques de Boko Haram dans cette zone frontalière du nord-est du Nigeria, considérée comme le fief des islamistes. L'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Il a été instauré en février 2015, après les premières attaques de Boko Haram contre le Niger.
Et au sujet du groupe islamiste toujours, la France et le Nigeria ont signé aujourd'hui une feuille de route sur leur coopération militaire, notamment en matière de renseignement, afin de renforcer la lutte contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. La lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, notamment la piraterie, est également au cœur de cette coopération militaire.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé les dernières sanctions qui pesaient sur la Côte d'Ivoire depuis 12 ans et a confirmé que la mission onusienne dans le pays se retirerait définitivement en juin 2017. Idriss Fall.
La résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. L'embargo sur les armes décrété en 2004 et les sanctions ciblées comme le gel des avoirs et les interdictions de voyager sont levées avec effet immédiat. L'embargo a déjà été assoupli en 2012 pour permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de s'entraîner. Le président Alassane Ouattara avait réclamé qu'il soit totalement levé dès son élection en octobre dernier. Côté économique, l'ONU avait levé en 2014 l'embargo sur les ventes de diamants ivoiriens. Par ailleurs, le Conseil a décidé que le mandat de l'ONUCI sera prorogé pour une période prenant fin le 30 juin 2017. Les effectifs militaires de la mission doivent passer de près de 4000 actuellement à 2000 d'ici au 31 août 2016. À son apogée en 2012, elle comptait près de 10 000 casques bleus.
Procès Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. La cour d'assises d'Abidjan jugera en mai ou juin l'ex-première dame ivoirienne pour crime contre l'humanité. C'est ce qu'indique l'AFP, citant une source judiciaire.
Disparition d'une vingtaine de militaires et policiers au Tchad depuis la présidentielle. Amnesty International tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités l'ouverture d'une enquête indépendante. Le bureau pourrait être plus lourd puisque des médias parlent de plus de 40 membres des forces de défense et de sécurité disparus depuis le 9 avril, jour de vote pour les militaires. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Élections en Gambie, le parti au pouvoir et les formations d'opposition s'engagent à des activités politiques pacifiques et à la tenue d'élections libres. Ils ont fait paraître un communiqué conjoint. À noter toutefois que cette annonce intervient alors qu'une trentaine d'opposants sont toujours détenus à la suite de manifestations.
Possible levée de l'embargo sur les armes en Libye, le ministre italien des Affaires étrangères s'est dit favorable à une telle mesure pour soutenir le gouvernement d'union nationale à Tripoli.
La dépouille de Papa Wemba, le roi de la Rumba, est arrivée à Kinshasa. Les obsèques officielles du musicien décédé à Abidjan débuteront lundi prochain dans la capitale congolaise. En attendant, le corps sera gardé à la morgue dans un hôpital.
Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, au moins 18 personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans des bombardements rebelles sur 5 quartiers gouvernementaux à Alep. 20 autres, dont 3 enfants, ont trouvé la mort dans des raids du régime contre 2 quartiers rebelles, dont celui très populaire de Bustan al-Qasr. Les précisions de John Lyndon.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé ce bilan. Les secouristes recherchaient toujours d'éventuels survivants sous les décombres. La veille, les raids avaient déjà causé la mort d'une trentaine de personnes, dont le dernier pédiatre exerçant dans le secteur rebelle d'Alep. Ces frappes ont notamment visé l'hôpital d'Al-Quds, Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge ont condamné l'attaque contre cet hôpital. Durant ces dernières 48 heures, un Syrien est mort toutes les 25 minutes, a dénoncé l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Il s'est dit convaincu que le cessez-le-feu, mis en place le 27 février sous l'égide de Moscou et Washington, pouvait s'effondrer à tout moment. Il a donc appelé mercredi soir les deux parents de cette trêve, devenus moribondes, de prendre une initiative urgente.
Le vice-président américain Joe Biden est en Irak pour des entretiens avec les leaders de ce pays. Cette visite surprise est axée sur la nécessité d'encourager l'unité nationale et la poursuite de la lutte contre le groupe État islamique. Le climat politique est actuellement tendu en Irak en raison des efforts du Premier ministre Abadi pour créer un gouvernement de technocrates afin de mieux lutter contre la corruption.
Les autorités irakiennes ont fermé le bureau d'Al Jazeera à Bagdad, accusant la chaîne satellitaire qatari d'incitation à la violence et au confessionnalisme. La chaîne, qui est basée à Doha, a assuré mercredi dans un communiqué ne pas avoir violé les règles et ne pas s'être détournée d'une couverture professionnelle et objective.
En Italie, le parquet de Milan a annoncé l'arrestation d'un couple et de jeunes Marocains soupçonnés d'avoir envisagé des attentats terroristes sur le sol italien. Le couple, une Italienne convertie à l'islam et son mari marocain, voulaient partir combattre en Syrie en emmenant leurs deux jeunes enfants. Le suspect ciblait apparemment Rome, qu'il qualifie de lieu de référence pour tous les chrétiens.
Le secrétaire général de l'ONU s'est dit préoccupé par l'adoption en Europe de politiques restrictives concernant les migrants lors d'un discours devant le Parlement autrichien. Nathalie Barge.
Je suis préoccupé par le fait que les pays européens adoptent aujourd'hui des politiques de plus en plus restrictives concernant l'immigration et les réfugiés, a déclaré Ban Ki-moon ce jeudi devant le gouvernement et les parlementaires autrichiens. De telles politiques vont à l'encontre des obligations des États envers le droit international, le droit humanitaire et le droit européen, a souligné M. Ban. L'Autriche a instauré mercredi la possibilité de décréter un état d'urgence migratoire, un régime permettant de suspendre de facto le droit d'asile. Ban Ki-moon a rappelé toutefois avoir été très impressionné par les moyens que l'Autriche a déployés l'automne dernier pour accueillir les migrants. L'Autriche a accueilli 90 000 réfugiés en 2015, soit plus d'1% de sa population. Elle a depuis progressivement refermé ses portes dans un contexte de poussée de l'extrême droite qui a vu le candidat du parti FPO, Norbert Höfer, arriver en tête du premier tour de l'élection présidentielle le 24 avril avec 35% des suffrages.
En Chine, le Parlement a adopté une loi très controversée qui impose un contrôle renforcé aux ONG étrangères. La police pourra ainsi annuler l'enregistrement de toute organisation qui, selon elle, porte atteinte aux intérêts nationaux ou menace les intérêts de la société. L'initiative avait déjà provoqué une levée de boucliers d'organisations caritatives et de gouvernements étrangers, s'inquiétant des pouvoirs accrus donnés à la police.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'État du Sénégal a signé deux accords avec un groupement turc pour terminer dans 8 mois les travaux du nouvel aéroport à 42 km à l'est de Dakar. Ces travaux avaient débuté en 2007 par le géant saoudien du BTP Bin Laden Group. Ce groupement turc a aussi obtenu une concession de 25 ans pour l'exploitation de cet aéroport, dont la mise en service est prévue en avril 2017. La Banque mondiale a suspendu certains de ses prêts au Mozambique. Ceci intervient après la découverte de près d'1,4 milliard de dollars de dettes cachées. L'approbation de nouveaux prêts pour le développement est retardée en attendant une nouvelle évaluation de la viabilité de la dette du pays qui sera menée conjointement avec le FMI. Enfin, la croissance économique aux États-Unis a ralenti plus sévèrement que prévu au premier trimestre, marquée par une baisse des dépenses des consommateurs et une chute des investissements des entreprises. Conséquence, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 9 000 la semaine dernière.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Eric Manirakiza.
Eh bien maintenant les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Idrissa, bonsoir à tous.
Alors, on commence avec la présidentielle de 2017 au
Niger. Là, nous sommes en politique, hein, c'est ça?
C'est étrange, mais c'est peut-être à cause de cette vedette du football, n'est-ce pas, George Weah, qui est sûr de ses chances.
Oui, lors de la présidentielle de 2017, donc au Libéria, l'opposant et ex-star du football international George Weah a affirmé ce jeudi à l'AFP être certain de remporter l'élection présidentielle donc de l'année prochaine, quelques heures seulement avant d'annoncer officiellement sa candidature devant ses partisans. George Weah, aujourd'hui âgé de 49 ans, a déjà été candidat à la présidentielle de 2005, battu par Ellen Johnson Sirleaf, l'actuelle présidente, puis de nouveau en 2011 et en tant que prétendant à la vice-présidence sur un ticket présidentiel. Avant de se convertir en politique, Idrissa, Mr. George, comme on l'appelle, a été une star du football mondial, notamment récompensé du Ballon d'Or en 1995, un trophée qu'il est jusqu'à présent le seul Africain à avoir obtenu.
Ok, alors pour George Weah, maintenant seconde demi-finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Eh bien, implacable rouleau compresseur en Espagne et en Europe, l'Atlético Madrid a continué hier à bousculer l'ordre établi contre le Bayern Munich. Et là, on parle du match d'hier, hein, victoire 1-0 des Cocloneros sur leur pelouse de Vicente Calderón. Et donc ce soir, avec le déplacement du FC Séville en Ligue d'Europa, en Ligue Europa, les demi-finales donc, le FC Séville, double tenant du titre, et Shakhtar Donetsk, celui de Liverpool, de Jurgen Klopp à Villarreal.
Je suis heureux de n'avoir pas à prononcer tous ces noms-là, Bagassi. Les demi-finales allées d'Europa League promettent spectacle et suspense demain.
Oui, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, hein, avec ce déplacement du FC Séville, hein, double tenant du titre au Shakhtar Donetsk. Et bien sûr, les Anglais de Liverpool, eux, se rendent à Villarreal.
Ok, alors le patron de la FIFA salue l'exploit de Leicester.
Eh bien, Leicester, hein, c'est ce petit poussé qui est en passe de remporter la première ligue anglaise. Un conte de fées, comme dit le président de la FIFA, qui a donc salué cette performance. Pour lui, c'est une illustration de la magie du football. Leicester, il faut le dire, est en tête du championnat d'Angleterre à 3 journées seulement de son terme, avec 7 points d'avance sur Tottenham. Son plus proche poursuivant n'est plus qu'à une victoire d'un titre historique. Il faut dire, hein, les grands clubs comme Man U ou Chelsea sont loin du titre cette année. Et donc, on retrouve ce club qui n'était même pas en Première Ligue, qui est en passe donc de remporter ce championnat.
Bon, parlons maintenant de la NBA, le championnat de basketball nord-américain. Est-ce que la vedette de l'équipe... C'est tout.
Oui, eh bien, on va donner ce résultat dans la conférence Est de la NBA. Charlotte a battu hier soir Miami à domicile, 90 à 88.
Alors, je voulais parler des Golden State et de leur vedette, mais on y reviendra plus tard.
Il n'a pas joué hier soir, je crois.
Très bien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Idrissa Sédoudia en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
Le Burundi, des membres de la société civile ont rencontré aujourd'hui au siège de l'ONU à New York Adama Dieng, secrétaire général adjoint des Nations Unies et chargé de la prévention du génocide, après le vote par le Conseil de sécurité en faveur de l'envoi d'une force de police de l'ONU au Burundi. Plusieurs ONG burundaises, africaines et internationales demandent un déploiement rapide d'une telle force pour protéger la population. À New York, Jacques Aristide s'est entretenu avec le célèbre défenseur des droits humains burundais, Pierre Claverne Bonimpa.
Bon, le message que nous voulons porter au monde, c'est que d'abord, New York, c'est le siège des Nations Unies. Les Nations Unies sont chargées de la sécurité de tout le monde. Alors, au Burundi, il y a des violences, il y a des tueries, des assassinats, des tortures, toutes sortes de crimes. Alors nous sommes venus ici pour mettre de la lumière aux Nations Unies, pour que les Nations Unies viennent secourir le peuple burundais qui continue à mourir aujourd'hui comme des mouches sans assistance. C'est le but de notre mission ici à New York.
Tuerie, violence, mais le pouvoir dénonce lui aussi ces violences en montrant du doigt des mouvements armés qu'il accuse d'être liés à des politiciens qui veulent, dit-il, diviser le pays. Le gouvernement évoque par exemple les assassinats en série à la tête de l'armée, dont celui du général Kararuza lundi, de même que le récent attentat manqué contre un ministre et son épouse. La responsabilité est-elle donc partagée ?
La responsabilité incombe toujours au pouvoir, au gouvernement, parce que tout pouvoir, tout gouvernement est là pour protéger le peuple. Si ce pouvoir n'est pas à mesure de protéger son peuple, c'est-à-dire que ce pouvoir est défaillant, il n'a pas de raison alors à ce que ce gouvernement continue à diriger le peuple.
Mais il y a des gens que le gouvernement qualifie de terroristes.
Le gouvernement, c'est son pouvoir de lutter contre le terrorisme. Nous voyons ici même à New York, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, ils luttent toujours contre le terrorisme. Ce n'est pas le gouvernement qui devient terroriste.
Voilà, c'était Pierre Claverne Bonimpa, fondateur de l'Association pour la protection des droits humains et de la personne détenue. Et si vous voulez écouter l'intégralité de cette interview, retrouvez Jacques Aristide dans Washington Forum.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le premier anniversaire de la grave crise politique et humanitaire au Burundi, déclenchée par le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza à la tête du pays. Un an après, l'espoir d'une sortie de crise est-il toujours permis ? Peut-on parler d'un échec de la communauté internationale ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Au Tchad, plus de 20 familles sont sans nouvelles de leurs proches depuis le 9 avril dernier, le jour de la présidentielle. Ces personnes disparues font partie des forces de défense et de sécurité. Amnesty International et la Ligue tchadienne des droits de l'homme ont confirmé plus de 40 disparitions. Quel serait donc le mobile ? Eric Manirakiza a joint à Dakar la chargée de campagne auprès de Amnesty International en Afrique de l'Ouest, Balkissa Idesido.
Ces personnes sont allées voter. Donc certains ont informé leurs femmes, leurs frères qu'ils vont voter. D'autres ont demandé l'autorisation à leur supérieur hiérarchique en disant qu'ils vont voter. Et depuis ce jour, on les a plus revus. Des membres de leur famille ont essayé de les contacter au téléphone. Pour certains, c'est passé sans qu'on décroche. Pour d'autres, notamment dans un cas, la femme est tombée sur quelqu'un qui a décroché et qui l'a menacée. Et sur la chaîne de télévision nationale, le 21 avril, 4 des personnes qui étaient portées disparus ont été présentés. Mais nous, notre inquiétude et ce que nous demandons en fait, c'est où sont passés les autres ? Pourquoi les membres de leur famille n'arrivent pas à entrer en contact avec ces personnes ?
Le vote est tenu secret. Comment ces personnes ont-elles été identifiées pour avoir voté à un autre candidat que le président sortant, Idriss Déby ?
C'est une question très intéressante parce que nous avons eu à parler à certains membres des forces de sécurité et de défense qui avaient été arrêtés, violentés et détenus ce jour-là, le 9 avril. Donc ces personnes nous ont expliqué qu'en fait, bien qu'il y avait des isoloirs dans les bureaux de vote, ces isoloirs n'étaient pas utilisés. Donc il y avait un commandant de l'ANC et également un agent des services de renseignement qui, les deux se tenaient devant l'isoloir. Et quand ils voulaient rentrer pour faire leur choix, on les interpellait, on leur demandait « Est-ce que tu es policier ? Est-ce que tu es gendarme ? Est-ce que tu es militaire ?» Quand ils répondaient, on leur disait « Pourquoi alors tu ne veux pas voter devant nous ?» Voilà, nous sommes tous les mêmes. Donc quand ces personnes essayaient de résister, essayaient de vouloir quand même aller dans l'isoloir voter, dans un cas, il nous a dit qu'on lui a pris son bulletin de vote, sa carte d'électeur, et on l'a conduit directement en cellule. Certains nous ont reporté qu'il y en a qui ont osé voter devant ces deux personnes-là et qui ont été bastonnées.
Est-ce que ces personnes disparues ont-elles été enlevées ou arrêtées quelque part? Y a-t-il des témoins qui ont assisté à leur arrestation?
C'est justement la question. C'est vraiment ce que nous demandons aux autorités. Où sont ces personnes? Si elles sont en détention, que leurs familles soient informées où est-ce qu'elles se trouvent, qu'elles sont en détention ou pas. D'ailleurs, les familles ont le droit de savoir où se trouvent leurs bien-aimés parce que là, ces familles sont dans l'angoisse. Si jamais certains sont en détention, qu'il y ait des charges claires qui sont retenues contre elles et que ces personnes, si ces charges sont justifiées, soient traduites en justice.
C'était de Dakar au Sénégal, Balkissa Idé Sido.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Et nous partons maintenant au Niger. L'opération Ville Morte, annoncée par les organisations de la société civile, a été très peu suivie. Les transports urbains et les centres commerciaux ont fonctionné. Le mot d'ordre avait été lancé par le collectif Résistance Citoyenne qui entendait ainsi protester contre l'instauration d'une dictature dans le pays par les autorités réélues récemment. Le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Tous les transports urbains ont fonctionné normalement ce jeudi à Niamey. Il en est de même pour les grands centres commerciaux où la quasi-totalité des boutiques ont ouvert, au grand marché de la capitale notamment.
Je m'appelle Mokhtar Jibouali, j'ai ouvert parce que moi je ne suis pas au courant des villes mortes vraiment.
Et dans la ville, est-ce que les gens respectent le monde?
Dans la ville, tout le monde est dans son actif.
Moi, c'est Nadamou, au grand marché mon ego.
Je m'appelle Seyna Adamou, je suis au grand marché.
J'ai pas ouvert parce que j'ai respecté le mot d'ordre lancé par la résistance citoyenne et puis je suis avec eux à 100%. Ce qu'on veut, nous ne devrons pas ouvrir parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce marché. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que nous sommes en Afrique, les gens sont ce qu'ils sont. Maintenant, je suis en partant pour la maison. Je suis venu juste pour voir ce qui se passe dans le marché. Et je suis prêt à observer cette ville morte, même si c'est demain.
J'ai pas été informé. Je n'ai rien comme information.
Ceux qui ont appelé à cette ville morte, ils disent qu'il n'y a pas de démocratie.
Ah, si on appelle l'histoire de la démocratie, nous sommes des commerçants.
Kimba Idrissa est responsable d'une des structures de conducteurs de taxi de la ville de Niamey. Dans son taxi, plein de clients, il regrette de n'avoir pas été associé au mouvement.
L'information n'a pas passé. Et au niveau même de l'organisation, vous savez que dans le secteur transport, aujourd'hui, le mouvement le plus organisé, surtout dans le transport urbain, c'est le collectif des syndicats du secteur de transport. Et malheureusement, ce collectif-là n'a pas été associé. Je déplore cela. Nous sommes de cœur avec la société civile. Nous sommes vraiment de cœur, à 100% de cœur. Mais quelque part, il y a un dysfonctionnement parce que le message n'a pas passé.
Au niveau du collectif, l'on reconnaît cet échec. Abbas Abdelaziz est un des responsables.
C'était une décision qu'on avait prise rapidement. Et vraiment, avec ces coupures intempestives courantes, et les gens ne suivaient pas pratiquement les télévisions, n'écoutaient pas les radios. Vous voyez, on a eu un problème de communication. Et en plus, de l'autre côté, le pouvoir a mis un mécanisme en place d'intimidation, de menace. C'est n'était pas à notre attente. On a voulu que ça soit mieux que ça. Ce n'est pas peine perdue. Quand même, il y a la prière de demain pour qu'il n'y ait pas la dictature au Niger. Et en plus, la marche de samedi.
Mercredi dernier, le collectif Résistance Citoyenne a publié une liste de 10 revendications pour justifier ses actions. Une d'entre elles est la démission de la Cour constitutionnelle ainsi que la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La dépouille de Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, est arrivée à Kinshasa. Les obsèques officielles du musicien décédé à Abidjan débutent lundi prochain dans la capitale de la RDC. En attendant, le corps sera gardé à la morgue dans un hôpital. Reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'émotion était vive à l'arrivée de la dépouille de l'artiste musicien Papa Wemba à Kinshasa. Des milliers de Kinois ont pris d'assaut la principale artère qui part de l'aéroport international de Njili jusqu'à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Gabin Chiteya, qui a vécu avec les défunts, témoigne.
C'est quelqu'un qui avait le temps pour tout. Et pour moi, c'est quelqu'un qui échangeait toujours positivement. Place d'un papa. Le dernier grand souvenir que j'ai eu, le 16 novembre 2015, on va cramer. C'est parmi les premières personnes qui sont venues me voir et pour me consoler de la douleur. Donc là, c'est pas par hasard que tout le monde est derrière lui et que tout le monde a des douleurs et touché. Tout ce qu'il a eu de positif.
Le député Michel Kabeya, un proche de Papa Wemba, a dit interrompre sa vie d'exil, dit-il, à la demande du défunt.
Il m'a presque dit que je reviens, il m'a encouragé de rentrer au pays pour suivre mon travail, mon combat de faire ici. Et c'est vraiment en partie, je dis en grande partie grâce à lui, parce qu'on m'a tellement rendu fini pour ce film. Quand je suis rentré, c'était quelqu'un de très bon.
Des notables du quartier Macampagne, où vivaient les défunts, souhaitent que le deuil se déroule dans cette partie de Kinshasa où ils vivaient. José Moutoualé, voisin du défunt.
D'ailleurs, nous avons même réclamé qu'il y ait un podium de deuil à la presse commerciale Macampagne. Donc, que nous, les gens, les voisins de Papa Wemba, les gens qui ont vécu avec Papa Wemba dans le quotidien, nous voulons vraiment pleurer Papa Wemba, parce que Papa Wemba était avec nous. Papa Wemba, c'est un monument. Mais je ne sais pas, c'est aujourd'hui que les gens ont vite compris que Papa Wemba était qui. Nous avons perdu un Papa Wemba. Je ne sais pas s'il y aura des lettres, je ne sais pas s'il avait écrit, je ne sais pas si on mettra quelque chose dans les bibliothèques pour qu'aujourd'hui, les jeunes enfants, nos enfants qu'on a mis au monde de leur vie, puissent aller dans ces bibliothèques chercher les œuvres de Papa Wemba. C'est ce que nous réclamons.
Des délégations étrangères et de l'intérieur de la RDC arrive à Kinshasa pour rendre les derniers hommages au roi de la rumba congolaise. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Josèle Morissin a assuré la mise en onde. Présentation Morgane Guerriec et Idrissa Seydoudia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.